nous accueillons pour notre émission mensuelle « De vous à nous », on vous dit presque tout. Lors de notre dernière émission en 2019, toute l'équipe a fait un bond en arrière de 100 ans et vous a parlé des années 1920. Que de chemin parcouru. Aujourd'hui, notre sujet nous transporte dans 100 ans, en 2120. Quelle sera notre vie? La France existera-t-elle encore en tant que nation? Les femmes auront-elles pris le pouvoir? Les robots ou l'intelligence artificielle seront-ils omniprésents? Et le climat, que deviendra-t-il? Guy, nos deux Michel, Sylvie, Marie, Florence, Lucette et moi-même allons vous raconter ce qui vous attend en 2120, ou plutôt ce qui attend nos petits-enfants. Marie.
Bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, nous partirons sur la Lune avec un humain sur la Lune en 2120, raconté par Michel et Sylvie. Nous aurons également nos micro-trottoirs que nous aimons tant. Nous retrouverons Lucette et son compte, une scénette avec une soirée familiale en 2120 avec Michel E, divers morceaux musicaux comme la rencontre du troisième type, la neuvième de Beethoven, Téléphone, je rêvais d'un autre monde. Nous écouterons également un dialogue d'un grand-père et sa petite-fille en 2120 par Guy. Et nous rentrerons dans une fiction et également dans la réalité avec Marie-Claude. Viendra ensuite une bonne nouvelle avec Sylvie. Et nous terminerons cette émission avec la conclusion par Sylvie. Nous vous remercions tous pour votre fidélité. Michel et Sylvie avec un humain sur la Lune en 2120.
Bonjour Michel Delben, nous sommes en 2120. Pouvez-vous vous présenter ?
Oui, bonjour. Eh bien, j'ai suivi la voie de mon grand-père Robin Delben qui était boulanger dans l'espace des premiers habitants sur notre Lune. Il avait fait son apprentissage sur Terre en région parisienne dans les années... 2020, oui. Actuellement, je suis établi sur le littoral d'Océanus, notre océan des tempêtes. Et grâce à notre niveau de vie, je travaille que le dimanche, mais j'ai gardé la tradition familiale. Je décline toute une gamme de croissants, toujours une exclusivité française qui a perduré et que nous apprécions toujours.
Je les goûte très bien, moi, vos croissants. Dans votre vie, nous sommes curieux de connaître vos moyens de locomotion.
Eh bien, pour les petites distances, j'ai une VA, c'est-à-dire c'est une voiture allégée à propulsion par hydrogène qui produit un coussin d'air. D'ailleurs, les bus à Paris roulaient à l'hydrogène dès mars 2020. Donc, vous voyez, c'est une ancienne technologie. Mmh. Et la carrosserie a été remplacée par un rayon laser en ogive, ce qui permet d'être à l'abri du manque d'oxygène. Et en cas de collision, eh bien, ça évite les chocs corporels grâce aux protons surdimensionnés. Mais pour les vacances, nous ne restons pas sur la Lune et nous les passons sur Mars ou Uranus. Alors là, nous utilisons la téléportation nettement plus écologique et surtout moins gourmande en matières premières.
Oui, en effet, c'est bien pratique. Vous avez une famille ?
Et oui. Et j'en suis à ma troisième. Comme vous le savez, les hommes s'engagent pour une durée non renouvelable de 20 ans. et cela se fait lors de congrès maritaux où les femmes choisissent un partenaire, mais selon des critères extrêmement pointus. Mais comme dans notre ancien monde, certains hommes ne trouvent jamais preneuse et ben, ils deviennent célibataires. Et puis, les enfants étant majeurs, il n'y a plus de lien juridique avec les parents, ce qui arrange des fois beaucoup de choses.
Oui, c'est bien plus simple. Et quels sont vos loisirs ?
Eh bien, la voile spatiale, au-delà de la force d'attraction dans l'espace galactique, ça c'est sur le plan sportif, et puis le chant aussi. Nous avons gardé notre culture musicale, hein, grâce aux musiciens des siècles passés, et puis ceux du 21e d'ailleurs, tels que John Barry, Jean-Michel Jarre, Carl Jenkins. Mais nous avons aussi nos artistes contemporains.
Nous allons en écouter un extrait. Maintenant, pouvez-vous nous éclairer sur votre habitation ?
Oui, nous avons appris depuis notre arrivée sur la Lune et depuis, et cela aussi d'ailleurs, à changer la façon de construire sur Terre. Donc comme il n'y a pas d'air ici, hein, vous le savez, on est sur la Lune,
oui.
Nous avons bâti pour être toujours à l'intérieur. Donc pas question de hauteur. Alors il nous restait qu'une solution, la profondeur. Et tous les étages se trouvent donc en dessous. Ça a servi, mais pas tout de suite. Vous vous souvenez sûrement qu'à Dubaï, il y avait des tours de 800 mètres à partir de 2010.
Oh oui.
Et tout le monde applaudissait, sauf que tout le monde avait oublié qu'entre 0 et 800 mètres, eh ben, la température baissait sérieusement. Et puis cela ben, avait fragilisé les édifices qui se sont dégradés. Vous avez sûrement vu les reportages à l'époque où les riches habitants ont investi les lieux.
Oui, je m'en souviens, oui.
Et puis après, ben, ils sont partis. Et on a mis les défavorisés locaux à la place. Et en 2080, vlan, une tour s'est écroulée, sans aucune alerte d'aucune part. Eh bien, d'un seul coup, 10 000 morts.
Oui.
Et depuis cette leçon, sur Terre, les constructions se font en sous-sol, comme chez nous sur la Lune. Du coup, plus de chauffage et de climatisation, température constante, comme dans les anciennes champignonnières, et on économise aussi les énergies, donc.
Oui, c'est l'idéal. Et sur le plan médical, où en est-on ?
Eh bien, les choses ont grandement évolué. Depuis 2108, le cancer a été vaincu par la méthode dite par digestion cellulaire, financé en grande partie par des fonds de l'intergalactique Ton. On avait repris une vieille recette des siècles d'avant. Et puis, nouvellement, un spray régénérant suffit pour guérir même les brûlés à plus de 90%. Donc, vous voyez, beaucoup de progrès.
Oui.
Et puis, l'arrêt des guerres a permis aussi un transfert de compétences médicales vers la médecine de proximité, puis réduit les temps d'hospitalisation. Et en plus, avec la 9G, puisque nous sommes déjà à cette technologie, eh bien, les appareils sont beaucoup plus performants.
Ah oui, quelle avancée. Êtes-vous heureux ?
Totalement. Nous vivons dans un monde apaisé où les luttes idéologiques et religieuses eh bien, ont laissé place à une concorde que nous apprécions et qui a été votée lors de l'Assemblée générale de l'ONU une nuit mémorable le 31 août 2098.
Mmh.
Et puis, sur un autre plan, le plan affectif, nous nous sommes absous du sentiment de jalousie. Savoir que nous serons bicentenaires eh bien, nous débarrasse des angoisses existentielles et puis de ne plus nous inquiéter pour l'avenir de nos enfants eh bien, ça nous libère d'un poids. Et puis, ils les libèrent eux aussi de la pression familiale qui gâche tant de vie aux autres siècles.
Oui, je comprends. Et l'avenir de nos planètes, comment le voyez-vous ?
Eh bien, nous sommes à l'aube d'un nouvel ère prometteur et nous pouvons coûter...
Je vous coupe, mais une augmentation de 5 degrés de température en un siècle, vous oubliez ?
Non. Mais depuis 100 ans et que deux générations se sont succédées, nous, la troisième, nous prenons enfin notre avenir en main. Et ceux qui envisageaient le sauvetage par la décroissance se sont trompés, puisque notre PIB croît de 8% par an. En plus, la population, toute planète confondue, tourne aujourd'hui autour des 3 milliards d'habitants, deux fois moins qu'il y a un siècle. Donc un résultat qui est vraiment positif.
Oui.
De plus, la Chine et l'Inde n'émettent plus que 5% des émissions à effet de serre. La Lune, chez nous, a zéro empreinte carbone. Et aux élections, les écolos verts ne font plus que 1% des voix. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'inquiétude de ce côté. En plus, les symboles du pouvoir, hôtel de la Saye, palais Bourbon, construits comme résidence royale et républicaine après, eh bien, sont aujourd'hui des lieux de culture et de mémoire.
Ah oui. Avez-vous des rêves, des ambitions ?
Oui, mais juste d'être heureux, et puis de rendre mon entourage heureux. Pas la tâche la plus facile, toujours.
Oui.
Mais aussi garder l'esprit du dimanche. Bien sûr, pas dans l'ancienne façon, où il y avait la messe du dimanche, l'humanité dimanche, le match de foot du dimanche.
Oui, c'est vrai.
Mais dimanche et Noël doivent rester des mots de bonheur, des mots de souvenir.
Oh oui. Eh bien, merci, auditeurs, viennent de vivre avec vous l'époque de 2120 avec Michel.
Merci.
Comment vous voyez la vie dans 100 ans ?
Dans 100 ans, l'avenir, oui, dans 100 ans, il faut savoir se projeter. Après, je ne suis pas si jeune que ça, hein, j'ai une trentaine d'années.
Bah, c'est bien,
mais dans 100 ans, voilà, nous, ce qu'on aimerait, c'est... déjà, on parle de, c'est des sujets d'actualité. Hein, on espère que les choses bougent par rapport à la retraite, toutes ces choses-là.
Oui.
On essaye de prendre part pleinement à l'environnement aussi, parce que je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est quelque chose pour les générations futures qui nous permettrait d'eux. Voilà, on pense à ces choses-là, même si on est jeune. C'est pas parce qu'on est ancien et qu'on se projette pas sur des choses un petit peu plus d'actualité, un petit peu plus concrètes, quoi.
Prononcez pas des choses intolérables pour moi. Je suis né le mois de novembre 2020.
Vous êtes un jeune homme.
Non, 1920.
Ah oui.
Oui, ça va. Hein.
Oui.
Non, je vais tomber.
Mais
donnez-moi un peu d'argent.
Pour 100 ans, vous portez bien un chapeau.
Non, je ne vais pas du tout. Je ne vais pas bien du tout. Mais je n'ai pas à me plaindre. Quoi, j'ai une vie. Mais alors maintenant, la France est.
Je la vois très mal parce que au point où c'est parti actuellement, c'est-à-dire où tout le monde est contrôlé, je présume qu'on va pouvoir difficilement se libérer de ce contrôle actuel. Donc dans 100 ans, ça va être pire forcément, quoi.
Comment voyez-vous la vie dans 100 ans ?
C'est assez difficile à dire parce que le monde change très rapidement en ce moment. Déjà, dans 100 ans, ça se trouve, il y aura plus de planètes à cause du réchauffement climatique. Donc c'est assez dur de se projeter. Après, il y a plusieurs théories qui pourraient être possibles. Soit on continue notre système actuel et donc on finit par détruire la planète. Soit on arrive à trouver une sorte d'équilibre avec la planète et on arrive à vivre en cohabitation avec la nature et en réduisant drastiquement tout ce qui est pollution et etc. Après... Au niveau de la technologie, ça évolue extrêmement vite. Donc même dans 10 ans, c'est impossible de dire ce qu'il y aura réellement. Donc dans 100 ans, c'est un petit peu difficile à imaginer, je pense.
Avec toutes les inventions technologiques et le réchauffement climatique, je pense qu'il va falloir trouver un truc. Parce que quand on regarde ce qui se passe en Australie, dont 1,25 milliard d'animaux de mort, ça peut quand même... ça continue comme ça, il y aura plus de... Il y aura plus d'êtres vivants sur Terre et il y aura que des machines, donc ça commence à être un peu faire un peu peur quand même.
C'est assez compliqué à dire. Enfin, se projeter quand même dans 100 ans,
je sais pas du tout comment ce sera, parce que quand on voit l'état actuel de la planète, on nous en parle beaucoup en histoire, en géographie, enfin même en EMC également. On a beaucoup de cours où on nous dit, là on utilise 2,5 planètes ou 3 planètes au lieu d'une en ressources naturelles, ce qui est quand même énorme. Donc dans 100 ans, je sais pas du tout comment la vie ce sera pour avoir, qu'il y aura assez d'eau, de ressources.
Et est-ce que tu penses que les gens ont eu assez d'imagination pour trouver autre chose?
C'est assez compliqué à dire. Parce que ça dépend des personnes qui ce qu'ils pensent. Il y a des personnes qui se disent qu'elles ne sont pas du tout concernées, parce qu'elles se disent, il y a des personnes, elles ont 50 ans, ça arrive. Elles se disent, on n'est plus concernées, on a 50 ans, on va en quelque sorte bientôt mourir, même s'ils ont quand même du temps à vivre. Et du coup, ça va être à nous forcément de faire les efforts. Mais il faut continuer dès maintenant.
Retrouvons à présent Sylvie avec Bienvenue dans 2120.
Bonjour chers auditeurs. Donc je vous propose ma petite chronique avec quand même un petit retour dans l'histoire. Il y a 100 ans, dès 2020, s'amorçait un grand changement mondial sur notre chère planète. Sans en avoir vraiment conscience, à cette époque, nous vivions la fin d'une civilisation et un changement climatique, comme la Terre en avait connu maintes fois, par une sorte de loi cyclique. Cela ne s'est pas fait sans mal, mais durant cette centaine d'années, les hommes se sont adaptés petit à petit. Les prises de conscience sur le plan humain, écologique, politique ont permis cette adaptation. Innovations, découvertes pointaient leur nez malgré le chaos social des années 2020. À présent, en 2120, les esprits ont changé, se sont apaisés. Les humains ont compris. L'humanité a appris à s'aimer. La nation, une histoire ancienne. Après l'effondrement des gouvernements, une union commune mondiale est née. Plus de dirigeants disparaîtres. Un seul et entier territoire pour nous tous. Les notions d'argent, de propriété telles que nous les connaissions, a été transformée. Plus de corruption, de manque. La répartition des richesses terrestres permet à tous de manger à sa faim. Chacun fait sa part de travail par jour, suivant ses possibilités manuelles, intellectuelles et son âge. Chaque être vivant est respecté à un niveau égal. La Terre est devenue un monde d'une seule ethnie d'habitants. Les races se sont confondues et sur notre planète règne enfin la fraternité. Plus de guerre, quelle horreur! Les vieux schémas des siècles derniers, oubliés depuis des lustres. Les institutions administratives ont simplifié la vie des habitants. Contrairement à avant, les familles sont libres, les hommes et femmes s'unissent sans contrainte. La notion de mariage passe par l'énergie du cœur. Chacun vit selon son entendement, avec respect. Et il aura fallu un siècle. La Terre a été nettoyée en 2060 de toute la pollution grâce à une technologie extraterrestre. Il était temps. De nouvelles énergies, issues des énergies cosmiques, ont vu le jour. Déjà en 2020 et les années précédentes, beaucoup d'idées ont germé mais n'étaient pas écoutées. Enfin, pas encore. À présent, les inventions, les idées sont de bon augure. Elles ne sont plus rejetées. Au contraire, elles sont écoutées et rien n'est laissé au hasard pour le bonheur de chaque terrien. En ce qui concerne l'éducation, de nouvelles matières sont enseignées aux enfants comme comment comprendre à gérer ses émotions, comment communiquer avec ceux qui nous entourent, comment vivre sans se faire du souci pour ce qui est déjà passé ou pas encore arrivé. Bref, un tas d'enseignements importants à la fois pour notre corps physique et mental. Quant au peuple animal, il est respecté. Plus de zoo, de cirque. Chaque animal sauvage vit à sa place, dans l'environnement qui lui convient, dans son territoire d'origine. D'ailleurs, des races qui étaient en voie d'extinction il y a 100 ans ont survécu. Un miracle. L'élevage intensif a été éradiqué. D'autre part, depuis 2070, les terriens voyagent outre-espace et peuvent aller, venir, vivre à leur convenance sur des planètes proches de la Terre, comme mon ami Michel,
installée avec sa famille sur la Lune, et ma sœur Annie, très heureuse sur Vénus. Il faudra d'ailleurs que j'aille les voir. La téléportation nous permet simplement, par la pensée, de nous déplacer sans véhicule, où l'on veut. Ainsi, voyez-vous, la Terre et les humains ont subi une grande transformation très bénéfique. La planète Terre, suivant son évolution, nous a portés comme ses enfants. N'est-elle pas notre mère nourricière à tous ? Nous avons écouté la musique Une rencontre du troisième type et à présent une petite soirée familiale en 2120.
La mère, devancée par une table qui roule toute seule.
On mange !
Oh, encore de la soupe, mais il y en a marre. On ne pourrait pas avoir un peu de charcuterie pour changer ?
La grand-mère.
Mais c'est bon la soupe, tu en mangeais quand tu étais petit. C'est pour cela que tu es si grand aujourd'hui.
C'est des sornettes tout cela. Regarde mes enfants, ils ont une bonne taille eux aussi et ils n'ont jamais mangé beaucoup de potage.
Oh oui, c'était mieux avant. On mangeait McDo, des bons hamburgers.
Mais regardez-nous tous, avec les légumes et les fruits bio que je vais chercher à vélo chez le maraîcher du coin et que je vous prépare de diverses façons. Nous avons tous la ligne. Pas besoin de régime yo-yo, comme faisaient les gens avant.
Oh oui, mais c'est ennuyeux de manger tout le temps pareil, et les repas manquent de saveur. Tiens, j'ai la nostalgie des bons petits plats que me cuisinait maman, comme les pâtés faits avec les lapins que papa rapportait de la chasse.
Oh papa, quelle honte ! Manger du lapin ? Cet animal si doux et si gentil.
Oui, mais il y a longtemps et j'étais jeune. Et je ne faisais pas de relation entre ce que je mangeais et puis les petits animaux de la campagne.
Allez, ça suffit ces critiques. Regardez le teint doré que nous avons tous. C'est grâce à notre nourriture si saine. Autrefois, les gens allaient se faire faire des UV dans les instituts de beauté. Chez nous, tout est naturel. C'est ainsi que nous portons des vêtements en coton, en lin, en laine, que mamie m'a appris à tricoter.
Mais la soie aussi, c'est naturel, et c'est plus beau.
Oui, mais quand tu gagneras ta vie, hein, libre à toi de te vêtir de soie. Mais pour l'instant, ce textile est réservé aux gens aisés.
Oui, mais maintenant non plus, je ne peux pas m'habiller comme je veux. Tiens, par exemple, dans notre famille, les jeans sont interdits.
Sais-tu seulement pourquoi ? Traiter ce textile est énergétivore.
Ah, tu nous énerves avec tes mots que personne ne comprend. Tu ne peux pas parler comme tout le monde ?
Ça suffit, toutes ces récriminations.
Encore un mot savant.
La grand-mère. En attendant, moi, j'ai faim.
Allez, vite, asseyez-vous, que ça saute.
Appuyant sur le bouton du récipient posé sur la table,
regardez ce long ruban de soupe qui se déverse dans vos assiettes grâce au tuyau noir. N'attendez pas que ce soit froid.
Et puis, si on en est aux confidences, moi, je vais dire autre chose. On ne te voit plus. Tu n'es plus jamais là, à la recherche de tous tes produits bio, comme le chanvre sativa sans effet psychotrope, comme tu dis, soi-disant que c'est pour préparer des cosmétiques.
Oui, la salle de bain est pleine de petits pots de verre qui contiennent je ne sais trop quel produit miracle ou pas.
Bah, tous autant que vous êtes là, vous êtes bien content de trouver cette plante sous forme d'huile, de crème, de sérum, de maquillage, pour lutter contre le vieillissement cellulaire, n'est-ce pas, mamie ? Lutter aussi contre l'acné, n'est-ce pas, mon fils ? Et soigner les épidermes déshydratés comme toi, mon chéri. Alors, j'ai une idée. Si ma présence vous manque, la nouvelle présidente de la République antimilitariste a ordonné la fermeture de toutes les bases militaires. Songez que la base 105, près de chez nous, va être découpée en parcelles qui seront vendues aux gens du coin pour qu'ils puissent faire de l'immobilier ou de la culture.
Mais où as-tu appris cela ?
Tiens, pardi, en écoutant la radio Principe Actif.
Ce vieux machin ? Maintenant, tout le monde est connecté grâce aux automédias.
Tu ne disais pas cela quand tu étais stagiaire à l'Octroi. Tu les trouvais tous formidables, les journalistes qui y travaillaient.
Bravo, bravo, bravo. Mais tu sais quel âge ont maintenant ces vieux schnocks ? 120 ans.
Eh bien, ils ont été remplacés par d'autres. Bon, revenons à nos moutons.
À la fille.
Dès demain, tu te débarrasses de tes strings, pantalons, de tes pantalons si serrés qu'il te faut t'allonger sur le lit pour les enfiler. Dis adieu aussi à tes chaussures à talons aiguilles qui te font tant souffrir tes jolis pieds. Au revoir aussi à tes bijoux fantaisie auxquels tu es allergique. Et viens avec moi fabriquer des colis fichés avec des graines, des bris de coquilles d'huile, de coquilles Saint-Jacques. Si tu veux, nous pourrons aller à vélo chez ce petit artisan original qui fabrique des sacs, des ceintures, mêlant cuir et écorce de bouleau. Quant à vous, mamie, je vous emmènerai chez mon coiffeur bio pour qu'il cache vos cheveux blancs.
Tout sera alors parfait. Mais que nous reste-t-il encore à faire ?
Eh bien, maintenant, finir le repas.
Lançant un regard coquin à son mari...
Et allons-nous coucher. Il y a tant de belles choses à faire dans notre nid douillet.
Et nous,
allez rêver.
À quoi ?
Au passé ou au futur. Bonne nuit. Demain est un autre jour.
Et est-ce qu'à votre avis, à tous les deux, on vivra mieux dans 100 ans ? Imaginez, peut-être pas vous, puisque vous pensez que vous serez mort, mais vos enfants, vos petits-enfants, est-ce qu'ils vivront mieux que vous dans 100 ans ?
Je vais peut-être paraître pessimiste, mais non, je le pense pas. Quand on voit le monde aujourd'hui, et déjà ce que nous, enfin moi, en tant que nouvelle génération, ce qu'on nous laisse, je pense que d'ici 50 ans, ce sera invivable. Et puis, c'est pareil, quand on voit... l'Afrique est en train de se développer. Qui dit développement dit aussi augmentation de la population. On est déjà 7 ou 8 milliards sur Terre. Ça va augmenter presque exponentiellement. Donc, pour moi, ce sera terriblement pire. Vu le monde qu'on a aujourd'hui, je pense pas que ça s'améliore...
Alors, je vais demander après à Rémi.
C'est clair que pour moi, c'est clair que non, parce que avec le réchauffement climatique, la population qui va augmenter, on est déjà 7,8 milliards sur Terre, donc avec le nombre d'enfants qu'augmente chaque an, le taux de fécondité, ça va paraître invivable. Il y a déjà pas énormément de place, donc je pense que franchement...
Avec tout ce qui se passe actuellement, ça va être difficile hein, dans 100 ans. Si on continue sur cette même dynamique et sur cette même lancée, quand je parle d'écologie ou beaucoup de choses, je pense que ça va être difficile de vivre mieux qu'à l'heure actuelle, s'il n'y a pas une prise de conscience de tout le monde, quoi. Voilà.
Alors, là aussi, la question est un peu ambiguë. Vivre mieux, à quel niveau ? Si vous faites mention sur la façon du mieux manger, du mieux respirer, peut-être qu'il y aura des améliorations, mais j'en suis moins convaincu parce que les lobbies militaro-industriels, les lobbies pétroliers ont une telle force que de faire admettre une autre source d'énergie, c'est quand même assez difficile. Et on le voit déjà actuellement. Alors bon, à moins qu'il n'y ait vraiment plus de pétrole dans 100 ans, et qu'ils trouvent une autre énergie, cette autre énergie, à mon avis, elle sera sûrement payable plutôt que gratuite.
Donc vous pensez qu'avec une prise de conscience, les choses peuvent changer ?
Il faut une prise de conscience. Voilà. Mais la prise de conscience, ce n'est pas forcément nous. C'est dès le plus jeune âge, au niveau de l'école, au niveau des institutions scolaires, au niveau des institutions type supermarché, etc. Sensibiliser les gens au recyclage, etc. On parle de recyclage, mais combien de personnes actuellement, à l'heure actuelle, recyclent leurs déchets ? Il y a très peu qui font le tri sélectif et tout ce genre de choses-là. Donc réellement sensibiliser. Moi, je sais que j'ai été sensibilisé dès le plus jeune âge à l'école, etc. Mais faire perdurer ces choses, essayer de gravir des échelons, des paliers par rapport à ces aspects-là pour qu'on puisse justement être dans de bonnes dispositions pour les personnes ou éventuellement moi, si je suis encore présent, 100 ans après.
Bah, j'espère, mais je pense pas. Il faudrait vraiment... faire des économies d'énergie, on va dire. Parce que là, je vous l'ai dit, ça fait 2 planètes et demie, il faudrait réduire. Et c'est énorme, parce que, enfin, il faudrait vraiment réduire beaucoup. Il faudrait quasiment diviser par 3. Et c'est pas... En 100 ans, je sais pas si ça pourra être faisable.
C'est long, 100 ans.
Oui.
Ah oui, certainement, on va mieux vivre. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il va falloir, avec toutes les bêtises qui se passent à la Terre actuelle... qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce qui se passe ?
C'est rien, c'est le micro, c'est tout.
Voilà.
Et je pense que oui, ça se fera, ça sera mieux. Parce qu'il va y avoir un grand turnover de la civilisation.
Oui, je suis d'accord.
Les jeunes de maintenant, les dames qui font les enfants, elles vont mieux les éduquer. Parce que maintenant, on fait « this is me, you look at me ». Non, c'est fini.
À présent, écoutons Guy dans une conversation d'un grand-père et sa petite-fille en 2120.
Conversation. Nous sommes en 2120. Au petit déjeuner, la petite-fille demande à son grand-père « Mais où elle est partie, maman ?»« Mais maman est partie sur la planète Mars pour le travail. Et quand est-ce qu'elle revient ?»« Ben déjà, il faut 6 mois pour y aller. Puis il faut attendre que les planètes soient bien en position rapprochée pour revenir. Maman sera de retour dans 2 ans et demi. Tu auras 12 ans. Mais pourquoi elle va travailler là-bas ? Mais maman est une scientifique, alors son entreprise l'a envoyée sur Mars pour trouver de nouvelles technologies qui permettront de vivre là-bas. Dans 20 ans, ce sera peut-être à ton tour d'y aller. Vivre sur Mars ? S'exclame la petite fille. Mais à quoi ça sert ? Alors son grand-père ouvre les rideaux. Eh bien, regarde un peu dehors. La petite fille y voit un ciel de brouillard rouge-orangé dans lequel se dressent de hauts immeubles en verre. Des drones volent d'ici, de là, délivrant des colis aux fenêtres. Tout en bas, on peut voir quelques personnes marcher dans la rue. Il n'y en a pas beaucoup, et elles portent des masques pour respirer. Ben quoi ? Répond la petite fille, tout est normal dehors. Son grand-père sourit et lui répond « Ce n'était pas comme ça avant. Tout a changé très vite. Mon père, c'est-à-dire ton arrière-grand-père, a vécu tout ça, il peut te raconter. » Le grand-père cligne des yeux 2 fois, se concentre et pense « Papa, peux-tu revenir dans la cuisine pour discuter avec la petite ?» Un minuscule appareil implanté sur son crâne envoie des signaux en Bluetooth vers la box de l'appareil. De l'appartement. Le message est alors envoyé à l'étage, à l'arrière-grand-père. Il a lui aussi un récepteur implanté dans le cerveau. Il était en train de pédaler sur son vélo d'appartement quand il reçoit le message. Alors il s'arrête pour descendre dans la cuisine pour parler à son arrière-petite-fille. Il lui dit, « Tu sais, je suis né en 2019 et j'ai eu 101 ans la semaine dernière. Quand j'étais petit, le brouillard orange que tu vois n'était pas là. Ça peut te sembler bizarre, mais le ciel était bleu et on pouvait sortir se promener dehors à tout moment, quand on le souhaitait. Il y avait 8 milliards d'humains sur Terre. Maintenant, nous sommes 13 milliards. Et le niveau des océans est monté à cause du réchauffement de la Terre. Alors, ils ont augmenté de niveau et envahi des villes et diminué des surfaces habitables. Et puis, en Afrique, à cause du réchauffement, la vie devient intenable là-bas. Trop chaud. Des millions de personnes d'Afrique sont obligées de monter vers l'Europe. Il faudra bien partager notre espace. Et comme nous sommes déjà 13 milliards, on manque de place. Avant, l'Europe contenait 29 pays. Maintenant, elle est devenue un seul pays. Elle s'appelle Euro-Unie et devient trop petite. C'est pour ça que ta maman essaye de trouver des technologies pour aller vivre sur Mars. Imagine toute la place que ça nous donnera en plus. Oh, je suis curieux de savoir comment c'est là-bas sur Mars. Eh bien, je vais téléphoner à maman lui dire qu'elle nous rappelle, ça nous coûtera moins cher. 12 jours plus tard, nos connexions crâniennes se mettent à vibrer. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi, Bernadette. Oui, la petite et moi, on voulait savoir un peu comment cela se passait sur Mars. Oh, ici, bon, on peut vivre, mais on manque d'air. On est obligé d'être constamment branché sur des bouteilles d'oxygène, nuit et jour. Il y a des grandes tempêtes de poussière et l'atmosphère est constituée à 96% de gaz carbonique. La nuit, il fait moins 40 degrés. Le jour, 0 degré. Tout dépend de notre position, si elle est très éloignée ou pas du soleil. Il a bien du mal à nous réchauffer, car la planète Mars est à 230 millions de kilomètres du Soleil, alors que la Terre est à seulement 149 millions de kilomètres. C'est quand même plus près. Ah, ce n'est pas la joie ici. J'ai hâte de me débarrasser de mes bouteilles et d'aller vous serrer dans mes bras. On part d'ici bientôt. Dès que Mars se rapproche de la Terre, on partira d'ici. En tout, il faut compter 258 jours. C'est-à-dire 8 mois de voyage. En tout cas, il faudra penser à aller voir ailleurs pour vivre. En attendant, portez-vous bien. Et toi, Lola, sois toujours sage avec ton père et travaille bien à l'école. Je vous embrasse.
Quand la fiction devient réalité. Un petit retour en arrière. En 1902, Georges Méliès sort le premier film de science-fiction, Le Voyage sur la Lune. Il ne se doutait pas que 70 ans après, son film deviendrait réalité avec Armstrong qui marcha sur la Lune. Bien avant ce film, Jules Verne écrit en 1865 De la Terre à la Lune, livre visionnaire et vulgarisateur. Depuis toujours, la science-fiction, mais aussi l'imaginaire de visionnaires, qu'ils soient écrivains, cinéastes, peintres ou dessinateurs de BD, proposent des visions du futur qui trouveront souvent un écho auprès des chercheurs, de géotrouve-tout ou d'inventeurs géniaux et audacieux. Un exemple. Pour ceux qui s'en souviennent, et pour la suite de la musique que nous venons d'entendre, en 1968 sortait un film culte, 2001 Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Un supercalculateur, HAL 2000, gère entièrement le vaisseau spatial. Il s'agit d'un système avancé d'intelligence artificielle pouvant participer à une conversation via une synthèse vocale, prendre des décisions autonomes de contrôle et de communication sur le vaisseau. Quel choc pour l'époque où l'informatique et les ordinateurs n'étaient connus que de quelques initiés. Aujourd'hui, en 2020, l'intelligence artificielle est à notre porte. Les ordinateurs possèdent des microprocesseurs de quelques nanomètres. L'informatique fait partie de notre vie quotidienne, téléphone, tablette, internet, etc. La mise au point d'un programme de synthèse vocale permet aux personnes malvoyantes ou handicapées de communiquer avec tout un chacun et de continuer une vie quasi normale. D'autres films célèbres ont permis d'imaginer le futur. Rencontre du troisième type, Star Wars avec le jeu d'échecs holographe, et Matrix, etc. La littérature n'est pas en reste et très fournie. De 1984 de George Orwell, paru en 1949, décrivant un monde sous surveillance avec Big Brother, ça ne vous dit rien, ou Le meilleur des mondes d'Huxley, ou encore La planète des singes de Pierre Boulle en 1963. Les paritions récentes de science-fiction annoncent pour le siècle à venir beaucoup de choses. Le transhumanisme, où l'homme invente lui-même et développe les biotechnologies qui vont lui permettre de se modifier lui-même et ainsi s'adapter à l'environnement ou se guérir de certaines maladies. L'omniprésence de l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne, mais maîtrisée. L'humain doit garder son libre arbitre et devenir un utilisateur averti. Le changement profond du système de santé. Chacun connaîtra ses constantes, tension, glycémie, IMC, etc., et sera connecté aux industries pharmaceutiques qui délivreront les remèdes ou conseils de santé quand nécessaire. Il y aura donc une connaissance de l'être humain dans sa globalité, comme en médecine chinoise. Ce qui implique, bien sûr, une réduction des médecins que nous connaissons sous cette forme. Mais les contacts existeront toujours, car l'homme a besoin de relations et de présence humaine. Ouf ! Le développement considérable des connaissances et de l'utilisation de notre cerveau, qui lui est toujours le même depuis des siècles. Ses capacités sont immenses. Et nous pourrons sans doute voyager par la pensée, ou la télépathie, ou nous téléporter dans un lieu sans voyager physiquement. Chouette ! Les dernières découvertes ou innovations nous permettent aussi d'imaginer notre futur. Un utérus artificiel pour grand prématuré qui se veut la réplique biologique de l'utérus humain. Des engins autonomes, voitures, taxis volants avec un aéroport dédié, ou des cerfs-volants générant de l'électricité. Des fermes urbaines où des légumes poussent sur des murs d'immeubles mais qui auront du goût à tester. Des autoroutes sous-marines, des tubes scellés sont déposés au fond des océans pour relier les continents. Les voyageurs montent dans des navettes montées sur des rails supraconducteurs à lévitation magnétique avec des vitesses ultra rapides de plus de 1200 km/h. Ça, je veux voir. Et encore des machines produisant zéro déchet, des data centers haute sécurité dans l'espace, des routes bleues pour lutter contre la chaleur, etc., etc. Lorsque l'on se plonge dans ces mondes scientifiques, ou de fiction, ou d'anticipation, l'imagination est au pouvoir. Et le futur semble inquiétant. Le pessimisme aussi peut être de mise. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'on ne connaît pas l'avenir et qu'il peut arriver tout événement qui remette en cause les projets. Soyons optimistes, car l'être humain est capable du pire, bien sûr, on l'a vu, mais aussi du meilleur. Seul l'avenir nous le dira. Thank you.
Chloé est une fille du 21e siècle. C'est vous dire, elle est née en 2020. Pardon, en 2000. Et maintenant, elle a 20 ans. Elle vit seule dans son studio d'étudiante, loin de ses parents. Et pour elle, c'est sa jeune vie d'adulte qui commence. Elle en est très heureuse. Un soir, on frappe à sa porte. Elle ouvre. Derrière, une femme. Une femme maigre, aux yeux creusés, négligée, presque sale. « J'ai faim, » dit la femme. « Et puis dehors, il fait froid maintenant. » Alors, Chloé a bon cœur, elle la fait rentrer. Et puis, elle partage son repas, du jambon, de la salade, yaourt, des fruits. Elle parle avec la femme. Et puis, le sommeil venant, elle propose à son invité de dormir sur le canapé. Et toutes les deux s'endorment. Le lendemain matin, quand Chloé se lève, la femme est déjà prête. « Je t'attendais, » dit-elle. « Je voulais te remercier parce que j'ai passé une soirée comme il y avait longtemps que je n'avais passé. Mais je veux pour ça t'offrir un cadeau. » Chloé la regardait surprise. « Mais oui, » a dit la femme, « sous mon dehors miteux, je suis une fée. Et si tu fais deux vœux, ils se réaliseront. » Chloé n'a pas eu le temps de poser une question, la femme avait déjà disparu. Une fée, ça existe encore en 2020 ? Alors, Chloé se dit, il faut que je trouve quelque chose d'extraordinaire. Et si je voyais comment la vie allait se passer d'ici 100 ans ? À peine son vœu a-t-il été pensé qu'elle a été immédiatement transportée dans une ville qu'elle ne reconnaissait pas. Pourtant, si, elle a retrouvé la cathédrale, le beffroi, l'hôtel de ville, mais les maisons étaient complètement différentes. Elles étaient montées sur des poteaux, elles avaient l'air de tourner en fonction du soleil, en fonction des saisons. Et puis elles étaient toutes dotées de panneaux solaires. Ah, on avait trouvé autre chose que les énergies fossiles. Et puis, il y avait un silence sur la ville, tout était calme. Bien sûr, il n'y avait plus de voitures, il n'y avait que des piétons, enfin pas des piétons ordinaires, des piétons qui se déplaçaient à 10 cm du sol. Ils glissaient, certains flânaient sur les trottoirs et ceux qui allaient vite occupaient la chaussée. Chloé ouvrait des yeux de plus en plus grands. Elle admirait les vêtements pour les femmes de longues robes en coton, les hommes pantalons larges, blouses bouffantes. Ils étaient à peu près tous habillés de façon identique. Alors elle a essayé de voir, elle a avancé, elle a traversé le centre-ville, elle est arrivée dans les quartiers. Toutes les maisons semblaient à peu près identiques. On ne pouvait vraiment pas envier le voisin. Alors elle a cherché la campagne. La campagne, pas de champs, pas de prés. Un immense jardin avec des fruits qu'on ne voyait plus, avec des fleurs de toutes les couleurs. C'était beau et c'était calme. On entendait les oiseaux, les animaux avaient l'air de vivre en bonne intelligence. Et puis un peu plus loin, elle a vu comme une petite colline, comme une bosse sur le terrain. Elle est allée voir et là, il y avait des grosses ouvertures. C'était les puits de lumière qui éclairaient les usines qui étaient maintenant souterraines pour ne pas abîmer le paysage. Il n'y avait personne, elle voulait avoir quelques réponses à ses questions. Elle est retournée dans la ville et là, elle a trouvé un passant qui a bien voulu lui parler. « Qu'est-ce que c'est ces usines? Qu'est-ce qu'on y fait ?»« Ah, » dit l'homme, « c'est simple. Les usines se fabriquent tout ce dont on a besoin. Maintenant, nous mangeons sous forme de pilules parce qu'elles sont très équilibrées. Elles nous permettent de rester en bonne santé et rester jeunes toute notre vie. » Et puis, il y en a quelques-unes aussi pour réguler l'humeur, pour que l'agressivité disparaisse. Chloé était vraiment étonnée. Et puis, elle dit, mais c'est vrai ça, il n'y a plus de personnes âgées là, dans la ville. Ah non, a dit l'homme, vous comprenez, les derniers vieillards sont décédés. Et puis, puisque maintenant nous avons de quoi nous nourrir de façon équilibrée, eh bien, nous avons découvert l'immortalité. Et les enfants ? Pas d'enfants ! Mais c'est pour ça que la ville est si calme. Pas de cris, pas de rires, pas de disputes, pas de bagarres, pas de cavalcades. Ah, les enfants, a dit l'homme, c'est pas la peine qu'ils soient là. On est déjà si nombreux sur la terre, et comme nous ne mourrons pas, il ne peut pas faire, on ne peut pas faire de place pour les nouveaux venus. Alors, dit Chloé, s'il n'y a plus d'enfants, s'il n'y a plus de vieillards, il n'y a plus de transmission, plus d'histoire, plus de chansons. Oh, se dit Chloé, ce monde, il ne me tente pas. J'aimerais mieux être quand même à mon 21e siècle. Aussitôt pensée, aussitôt réalisée, Chloé s'est retrouvée. Elle était assise en pyjama au bord de son lit dans son petit studio d'étudiante. Elle avait rêvé? Ou est-ce que c'était la réalité qui l'attendait? Elle a aperçu l'heure. Il était temps de sauter dans ses vêtements et de partir en cours.
Que pensez-vous faire dans 100 ans?
Dans 100 ans, j'espère déjà être en bonne santé. Oui. J'espère être toujours sur Terre. Mm-hmm. Et après, dans 100 ans, sachant que moi, je suis sportif, avoir toutes les pleines possessions de mes moyens, à la fois pour le travail, à la fois pour les hobbies, etc., pour pouvoir continuer à faire du foot, du sport, de manière générale, quoi.
Et toi, qu'est-ce que tu feras dans 100 ans?
Dans 100 ans, je ne sais pas si je serai encore vivante. Mais je l'espère si je suis en bonne santé, en tout cas. Et je pense que dans 100 ans, je pourrais déjà essayer de faire, d'utiliser le moins possible, faire des économies, dans le sens, quand vous avez 200-300 mètres à faire à pied, vous n'allez pas prendre la voiture. Il y a certains, c'est comme ça qu'ils viennent. Ils ont 4, 5, 600 mètres à venir, et c'est leurs parents qui les déposent en voiture et les parents rentrent chez eux après. Et c'est pas forcément logique, on nous dit il faut faire attention, la pollution c'est quand même grave par rapport au réchauffement climatique. Bah c'est aussi ça qui fait. Il y en a plein, ils vont prendre 6 voitures pour aller quelque part, il y aura une personne à chaque fois dedans. C'est le principe du covoiturage, c'est aussi fait pour la pollution, il y a quelques moyens, mais...
Je sais pas, j'ai un peu de mal à répondre à cette question et à me projeter vu l'âge que j'ai déjà. Alors que ferais-je dans 100 ans? Je pense que je serais... comme actuellement, un citoyen un peu brebis, un peu mouton, qui est obligé de faire ce qu'on lui dit, sinon il peut se heurter aux foudres de Big Brother. Enfin, Big Brother, c'est ceux qui nous surveillent.
Pareil, vivre jusqu'à 115 ans, ça serait compliqué, même si bon.
Ça ne te semble pas?
Ça dépend si on est en bonne santé ou pas.
Et toi, que feras-tu dans 100 ans?
Moi, je serais probablement morte. J'espère, en tout cas, j'ai pas envie de vivre jusqu'à 120 ans, ce serait beaucoup trop. Du coup, probablement 4 pieds sous terre.
Et à présent, je vous propose la première bonne nouvelle de l'année, issue du mensuel Être Plus, qui concerne le règne animal et intitulée « Réserve de 500 hectares dans le Vercors ». En France, l'Association pour la protection des animaux sauvages, ASPAS, portée par plus de 10 000 citoyens, a décidé d'acquérir 500 hectares de nature sauvage dans le Vercors, afin d'assurer une tranquillité absolue aux loups, aux cerfs, aux aigles et à tous les autres animaux qui occupent ce territoire. L'objectif est de reconstituer des îlots de nature intacts, sans gestion humaine, des zones de quiétude pour la faune et la naturalité pour la végétation. L'ASPAS a déjà récolté 2 200 000 euros sur les 2 à 3 millions nécessaires à la réalisation de ce projet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur apas-nature.org. Chers auditeurs, notre émission de Vous à nous, on vous dit presque tout, touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, ainsi qu'à Timothée et Jean-Jean pour la technique. En espérant que vous ayez passé un bon moment en voyageant avec nous dans le temps, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 20 février pour notre prochaine émission. En attendant, certes, l'époque actuelle est difficile, mais sans utopie. Des solutions existent afin que les générations futures aient un bel avenir sur notre planète. À nous tous d'y mettre une petite graine de joie, d'empathie, de bonne humeur, d'amour, d'idées, d'enthousiasme pour un monde meilleur. Oui, c'est possible. Meilleurs vœux à tous et toutes. Merci pour votre écoute. À bientôt. Donc, sinon, que resterait-il de notre façon de vivre dans 100 ans?
J'espère que la relation à autrui restera toujours présente. Hein. Le contact, l'aspect social, le contact de manière générale restera omniprésent. Mmh. Moi, je travaille dans l'éducatif, donc je suis un fervent défenseur du relationnel, de l'échange, de la communication. Donc, j'ose espérer qu'on garde de ces choses-là. Après, peut-être que les modes de vie changeront sur l'aspect, je sais pas moi, peut-être les gens vont plus vouloir peut-être aller sur les supermarchés. Je sais que ça se fait maintenant avec tout ce qui est drive, etc. On fait ses courses sur Internet, donc il y a une évolution par rapport à ça. Mais garder ce contexte humain, aller faire ses courses, discuter avec la caissière, etc. Voilà, de pas trop bousculer les choses de manière générale.
Dans notre façon de vivre, je suis un peu pessimiste là aussi, parce que notre façon de vivre actuellement, elle est faite pour que tout le monde soit un petit peu individualiste. Avec tous les appareils qui existent actuellement, que ce soit l'ordinateur, que ce soit le téléphone portable, où tout le monde a son œil rivé sur son téléphone ou son écran, avec les jeux vidéo par exemple, où les gens s'enferment dans leur bulle. Si ça évolue, là encore, je suis pas très optimiste, quoi.
À moins qu'il y ait une prise de conscience.
À moins qu'il y ait une prise de conscience. Mais même s'il y a une prise de conscience, comme peut-être qu'on a pu le voir avec le phénomène des gilets jaunes ces derniers temps, vous êtes peut-être rendu compte que la répression contre ces gens-là a quand même été relativement violente par le gouvernement pour que celui-ci ne perde pas ses prérogatives, quoi.
Dans les 50 années à venir, c'est vous qui allez être les adultes agissants. Est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez faire quelque chose, justement, pour aller vers un mieux ?
Alors moi, je vais parler en tant que jeune votante, parce que ça fait déjà 2 ans que je peux voter et que, depuis, on va dire, au moins 6 mois, je commence à m'intéresser un petit peu plus à tout ce qui est politique et à prendre vraiment des positions sur certains sujets. Déjà, faudrait que les gens nous prennent au sérieux. Parce qu'à 20 ans, personne ne nous prend au sérieux. Quand on ose élever notre voix, d'autant plus quand on est une femme, je prends pour exemple Greta Thunberg, avec tout ce qui est réchauffement climatique, quasiment personne ne nous prend au sérieux au niveau politique mondial. Et le problème, c'est que tous ces adultes, toutes ces vieilles personnes, entre guillemets, qui savent mieux que nous, sont en train de nous laisser quelque chose qui va être très dur à améliorer, parce que c'est maintenant qu'il faut commencer à faire des efforts, et c'est maintenant qu'il faut commencer à nous écouter, justement, pour mettre en place quelque chose de mieux. Chose qui n'est pas faite actuellement.
Et quand toi, tu seras adulte, ça va être d'ici 5 ans, tu vas rentrer dans la vie active, tu votes, t'as déjà donc un moyen de pression.
C'est difficile à dire, parce que enfin, honnêtement, au fond de moi-même, je me sens pas adulte. Et même si je peux potentiellement exprimer ma voix en votant, après, c'est un autre débat, mais disons que des fois, notre voix n'est pas forcément entendue. Et c'est difficile, ça reste difficile de se faire entendre. Même si nos idées sont bonnes et peuvent potentiellement marcher, il faut réussir à convaincre les bonnes personnes. Et ces bonnes personnes n'écoutent pas. Et d'ici 5 ans, je n'aurai que 25 ans, j'aurai fini mon école et j'entrerai dans la vie active, effectivement. Mais je suis pas sûre que les gens m'écoutent dans 5 ans. J'aurai juste 5 ans de plus à 25 ans. Il y a plein de gens qui ne sont pas écoutés non plus.
Et toi ?
Clairement.
Quand tu seras adulte, justement, est-ce que tu penses
C'est difficile à dire parce que on veut tous faire améliorer la planète, mais au résultat, ça s'améliore pas du tout, quoi. C'est mon prof d'histoire qui me dit que selon une étude, il faudrait que pour que la planète s'améliore, faudrait que on ne fasse plus d'enfants qu'on en adopte. Soit, sauf qu'à un moment donné. On a peut-être envie d'avoir des enfants nous-mêmes, donc adopter oui, mais franchement, c'est sur ce point-là, c'est compliqué. Après, en faire, oui, pourquoi pas, mais
c'est compliqué.
Bah oui.